Bonjour à toutes et tous. Pardon. On va lancer le congrès. Mon lot étant habituellement de le faire le temps que tout le monde s'installe, mais l'habitude se prend. Alors, je voulais déjà remercier Marseille et les Marseillais qui nous accueillent. Et c'était le choix de l'ADESME d'organiser son premier congrès international en province ou en région, comme on dit maintenant. Je vais lancer le propos de façon un tout petit peu officielle. En excusant d'emblée l'adjoint au maire de Marseille chargé de la santé, M. Padovani, qui nous visitera vendredi puisqu'il est pris par une autre obligation dans l'immédiat. Pour ouvrir ces journées, Monsieur le directeur général, je remercie Monsieur Darcourt de nous faire l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Chers professeurs et docteurs, et c'est important dans l'organisation et dans la tenue de ce séminaire, chers collègues, chers congressistes qui nous faites le plaisir et la confiance de participer à nos travaux, et plus encore, chers amis. C'est non sans une certaine émotion que je m'apprête à ouvrir ce premier congrès international de l'ADESME. Nous l'avons imaginé il y a déjà quelques années et nous espérons qu'il fera date, et d'abord pour vous. Alors avant toute chose, évidemment, en général on le fait à la fin quand plus personne n'est là, je voudrais remercier très sincèrement le comité local d'organisation, ainsi que Pauline Degore et Doris Gilich, qui se sont investis dans la réussite de cette lourde manifestation. Nous n'imaginions pas à quel point elle serait prenante. Mais je voudrais bien entendu remercier plus encore les membres du comité scientifique, notamment les universitaires et le CCOMS dans sa globalité, Jean-Luc Roland étant lui-même obligé par une mission au Mali, parce que sans eux, ce congrès ne serait tout simplement pas international, notre réseau n'étant lui-même pas suffisant. Et puis, bien entendu, remercier toutes celles et ceux qui nous font l'amitié et l'honneur d'avoir accepté d'intervenir. Ils sont nombreux, ils viennent de tout pays et de tous horizons, et c'était bien notre objectif. Pour ne pas alourdir ce propos, ni me faire trop répétitif, j'aurais simplement résumé les enjeux, et peut-être me ramener à un enjeu unique. Vivons-nous une simple phase d'adaptation de la psychiatrie dans la santé mentale, ou bien une rupture historique majeure, comme on en connaît, et notamment dans notre pays, tous les 50 à 60 ans? Car derrière le thème de la mutation, ses motifs, ses contenus et modalités, c'est bien pour nous la question princeps qui se pose. Alors qu'on porte une réponse qui serait en quelque sorte une conviction a priori, consiste à dire oui, c'est une mutation majeure, c'est une rupture, ou qu'on déduise cette conclusion, qui est plutôt la mienne, vous l'aurez compris, des causes passées, présentes et futures, c'est bien la réponse à cette question qui va engager toute la suite, évidemment pas uniquement aujourd'hui. Et c'est bien pourquoi notre initiative ambitionne de contribuer à forger cette réponse au plan déjà individuel et bien sûr si possible collectif, au moins pour que chacun se trouve mieux armé à l'issue de ces 3 jours, et là aussi notre objectif et notre ambition, au retour dans son établissement, sur son territoire et dans nos contextes quotidiens, à tous et à chacun. Alors c'est pour ça que cette idée d'un congrès international qui cheminait s'est focalisée sur cette thématique, sans doute n'aurait-elle pas été celle-là quand l'idée a germé, mais parce que la question s'impose avec évidence aujourd'hui, je crois qu'on peut en convenir. Et c'est pourquoi nous avons décidé avec le Bureau national de prendre nos responsabilités, de prendre aussi nos risques, de le faire en toute indépendance sur les fonds propres de l'association, puisque nous n'avons sollicité aucun soutien d'aucune sorte. La pétition de principe qui se trouve derrière cette décision, c'est que nous considérons que c'est aussi notre affaire et notre responsabilité à tous ici présents de contribuer au débat et au choix et d'ambitionner ainsi l'avenir de nos établissements de services publics de psychiatrie dans la santé mentale et parmi les disciplines médicales. J'insiste toujours sur ces 2 polarités, la psychiatrie dans la santé mentale, sur le territoire, dans la communauté, auprès des populations et d'autres acteurs, la psychiatrie, discipline médicale à part entière, avec tout ce que ceci suppose de recherche, d'innovation et d'excellence médicale dans notre pays. Nous pensons que c'est aussi, bien entendu, votre responsabilité, et parfois générale et parfois dans les établissements, ou systématiquement pour ce qui les concerne, et nous escomptons bien que ces 3 jours vous aideront à affronter des enjeux complexes et que nous percevons bien tous comme exigeants, justement parce qu'ils sont renouvelés. Alors c'est également pourquoi l'initiative d'aujourd'hui en appellera d'autres. On l'évoquera peut-être en conclusion, si nous restons encore quelques-uns dans cette salle vendredi en fin d'après-midi. Pour l'instant et pour l'heure, je souhaite à toutes et tous un excellent congrès, dont nous savons qu'il sera aussi marqué par sa convivialité, parce que c'est une marque de fabrique de la psychiatrie, quand on a connu d'autres environnements hospitaliers. Je vous remercie de votre attention, et je remercie Claude Darcourt de nous donner son avis sur le sujet.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais également saluer la présence d'Anne-Marie Brocas, qui est la présidente du HCAM. Et j'ai plaisir à dire que les rapports du HCAM sont des contributions utiles à la réforme du système de santé. Je pense que c'est dans cette veine-là que vous prendrez la parole tout à l'heure. Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles j'ai un grand plaisir à ouvrir cette réunion de travail. La première raison, c'est que vous avez eu la délicatesse de ne pas demander de subvention pour tenir cette réunion. Et je viens donc l'esprit libre, et vous êtes libre dans la relation avec l'Agence régionale de la santé. Plus sérieusement, dans un pays, puisque je crois qu'il y a des amis étrangers, et je voudrais également saluer leur présence à Marseille, dans un pays et dans un territoire où le verbe tient trop souvent lieu d'action, la question, comme le disait Raymond Aron, c'est que faire ? Parce que le déroulé de votre séminaire, de votre réunion, pose bien les trois étapes du raisonnement. C'est pourquoi changer, vers quoi changer et comment changer. Et là, nous sommes au cœur de cette question, c'est que faire ? Vous êtes des managers de structures, vous êtes des personnels hospitaliers, vous êtes des personnels soignants. Collectivement, c'est bien aujourd'hui, en 2018, la question qui est posée et qui prolonge d'ailleurs les intentions et les orientations du gouvernement et qui, pour nous, modestement, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est un des thèmes de ce qu'on appelle, c'est la Bible des acteurs de santé. Parfois, c'est un peu surprenant, ce qu'on appelle le projet régional de santé que nous venons d'achever et qui contient des pages, je le trouve, intéressantes parce qu'elles viennent de vous, hein, sur nos grandes lignes en matière de psychiatrie et de santé mentale. Alors je crois qu'il faut partir de constats élémentaires, je pense que ce sera développé tout à l'heure, mais comme nous sommes des esprits rustiques dans les agences régionales de santé, nous aimons bien faire 2 constats. Le premier, c'est que la santé mentale, c'est bien la menace la plus profonde, la plus angoissante, la plus interpellante de nos sociétés, non pas que tout soit simple dans le domaine somatique, mais nous avons tous, dans nos familles, nous connaissons tous, dans la société qui nous environne, cette angoisse, c'est une étreinte, ça concerne nos concitoyens, mais ça concerne les élus également. Comment faire ? Quelle est la prise en charge pour nos voisins, nos concitoyens qui sont atteints de pathologies psychiatriques ou qui vivent des problèmes de santé mentale. Donc, il n'y a aucun doute entre l'augmentation de l'âge de la population et la prégnance des problématiques de santé mentale. Avec ça, on est à peu près sûr de ne pas se tromper quand on fait de la prospective. Le deuxième commentaire dans les constats, je crois qu'il faut le dire, moi, je suis un acteur du service public, mais je crois qu'il faut dire que notre système patine. C'est-à-dire qu'il consomme plus d'énergie qu'il ne produit de résultats. Je ne veux pas dire qu'il y a du gâchis, mais je dis oui, le système de psychiatrie dans son ensemble, mais d'abord et surtout public, patine. Et je pense qu'on doit mesurer la forme de désespérance qui est celle de la population. Je crois que c'est une réalité, vous la vivez à divers degrés, mais moi, il ne se passe pas 2 semaines sans que je sois interrogé sur comment faire en sorte que telle personne que je connais soit prise en charge dans de bonnes conditions, ne soit pas mélangée à d'autres cas, et comment faire en sorte qu'on sorte de cette situation, sans parler même de l'opprobre. Et je sais que vous êtes très attentif aux problématiques de stigmatisation. On se casse la clavicule, on se casse la clavicule. Mais quand on dit qu'on est mélancolique morbide, on sait la résonance que cette sémantique a dans les familles qui sont confrontées à ces difficultés. Alors, ça c'est le constat. Pourquoi ? Maintenant, vers quoi ? Je voudrais le dire dans le désordre et de manière là encore rustique. Les spécialistes sont dans la salle, vous en êtes. Je suis venu avec le docteur Vincent Girard et avec le docteur Evelyne Philippe qui en parlerait mieux que moi. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'au fond, ce qui nous attend, c'est dans le domaine de la psychiatrie la même chose que ce qui se passe dans le somatique. C'est-à-dire rester le moins possible dans un établissement psychiatrique. Y être le temps du diagnostic, y être le temps de la feuille de route, et dès qu'on peut en partir, en partir. Une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas certain que dans notre dos, les élus aient bien compris cette problématique. Mais avant d'en arriver aux élus, il faut que nous soyons à peu près d'accord sur cette orientation qui est en gros la bascule vers l'ambulatoire. Je pense que de ce point de vue, nous avons du retard par rapport à d'autres pays. Nous savons également que nous devons changer nos pratiques. Comment le faire comprendre ? Vers quel référentiel aller ? Où en est le référentiel des bonnes pratiques ? Existe-t-il ? Est-ce qu'on s'est accordé sur cette affaire ? Réduire par conséquent la durée moyenne de séjour. Ne pas mélanger les publics. Moi, je me souviens très bien, vous n'étiez pas né, mais dans une école qui est rue Saint-Guillaume, il y avait un cours qui s'appelait le cours Fournier-Questio, je me souviens. Et à l'époque, la question de la sectorisation, c'était en... ça ne vous rajeunit pas, mais c'était dans les années 1975, la sectorisation était conçue et présentée comme une très grande avancée. Je me demande si on n'est pas resté un petit peu trop scotché à ce principe de sectorisation qui fait que, au total, on mélange allègrement les publics et que se retrouvent dans le même ensemble psychiatrique des, nos concitoyens qui n'ont pas toujours les mêmes pathologies. Donc je crois que cette question de ne pas mélanger les publics est aussi un des objectifs. Il y en aurait d'autres, vous les trouvez, d'ailleurs pour ce qui est des acteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous les trouvez dans le projet régional de santé qui décrit assez bien ce qu'il faut faire. Je pense en particulier au rôle clé des équipes mobiles. Il y avait un congrès il y a peu de temps de tous ceux qui portent les équipes mobiles. Alors la question pour avancer, c'est comment ? Comment sortir de l'incantation ? Comment sortir de ces batailles de polochons que nous vivons, qui bouffent notre énergie quand il faut caler un schéma d'urgence psychiatrique sur Marseille ? Hein ? Je dis aux acteurs marseillais, il y a un moment où les journées ayant 24 heures, je préfère qu'on les passe à échanger, à faire du benchmark, à se projeter dans l'avenir, plutôt qu'à être confronté à des... c'est pas des querelles de territoire, c'est des querelles d'avantages. Et honnêtement, je trouve que ça n'est pas à hauteur des enjeux. Ça n'est pas digne, tout simplement, quand on sait ce que la population attend. Donc je le dis aussi, sachons mettre en perspective et relativiser les choses, et rappeler que quelque part, nous vivons tous de l'argent public, que par conséquent, nous avons un service à rendre au public. Je crois que, je le dis d'autant plus facilement, au risque de provoquer, mais comme je pars dans quelques heures, peu importe, ça me donne ma liberté, si tant est que je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Mais je pense que ceux dans la salle qui sont soignants se rendent compte d'une forme d'inefficacité. Je pense que vous les vivez, et qu'on en est collectivement malheureux. Je crois à l'inverse que quand on met en place des méthodes expérimentales innovantes, tout de suite le tempo change, le dynamisme change, l'état d'esprit change. Donc il faut absolument arriver à sortir de cette sorte de halo d'inefficacité qui d'ailleurs a comme travers de masquer les aspects positifs de ce que vous vivez. Mais au fond, la société ne retient que les noms actuels des anciens asiles psychiatriques. Hein, parce que là encore, sur le plan de l'immobilier, on n'est parfois pas du tout dans la course. Et donc je crois qu'il faut, comme levier, agir par l'exemple. Pas par le verbe, pas par les incantations, mais montrer les solutions qui marchent. Et je voudrais rendre hommage à l'association des directeurs d'avoir pris cette initiative. Parce que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les exemples français qui marchent, mais aussi et surtout les exemples de nos amis étrangers. Parce qu'on est capable en France d'être en retard et pouf, de rattraper ce retard pour reprendre le lead. Et je pense qu'on est à ce moment où on doit être capable, en vous écoutant, vous, en sachant que les cultures ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais de faire ce saut. Et en tout cas, c'est important que ce soit une structure comme l'association des directeurs qui nous montre cette dynamique et qui nous montre par cette réunion qu'elle est prête à faire ce saut. Je pense qu'il faut avoir des établissements pilotes, qu'il faut les mettre en valeur, qu'il ne faut pas vouloir que tout le monde avance au même pas, mais qu'il faut prendre les souplesses que nous donne, par exemple, l'article 51, et il y a maintenant des initiatives réglementaires qui nous donnent cette souplesse, pour les mettre en œuvre. Le président Mao avait une formule qui est restée célèbre, plus que son action, qui était que sans fleurs fleurissent. Oui, je pense qu'il faut que sans fleurs fleurissent, et je pense que l'état d'esprit des régulateurs, au plan local comme au plan national, c'est de comprendre que sans fleurs peuvent fleurir. En tout cas, je vous le dis ici, en présence de Vincent Girard et d'Evelyne Philippe, nous sommes dans cet état d'esprit, dans les contraintes financières, cette fois-ci, que vous connaissez, mais l'article 51 peut au moins faire sauter les contraintes réglementaires. Je pense que nous comprenons les limites des schémas. Nous faisons parfois trop de schémas et on passe beaucoup de temps à s'étriper sur les schémas. Donc, ça n'est plus tellement le sujet. Il y aura, ceci étant, un schéma de santé mentale, c'est clair. Il y aura des projets territoriaux de santé mentale. Mais j'aimerais qu'avant cela, il puisse y avoir, et nous avons déjà tel ou tel établissement qui sont en pointe, qu'on puisse s'appuyer sur ces établissements pour en faire des leaders. Voilà. Je voudrais dire, enfin, en conclusion, que ça nous oblige nous-mêmes, dans nos propres structures, à une forme de retour sur nous-mêmes. Est-ce que véritablement nous avons compris que l'entre-soi n'était plus la méthode, y compris chez les soignants, qu'il fallait absolument s'ouvrir à des innovations, qu'il faut, et c'est ce qui se passe assez souvent, mais ça n'est pas suffisamment le cas, j'ai des exemples qui ne sont pas dans cette dynamique, se rapprocher du secteur privé, qui lui, c'est sa survie qu'il vit, qui se met sur des niches, qui a bien compris qu'il y a des domaines très précis où on gagne plus que l'on ne dépense, c'est la vie, mais il faut être au contact, il faut travailler en complémentarité avec ce secteur. En d'autres termes, la question, elle est bien dans votre thème, comment on s'y prend? Quelle méthode on met en œuvre? Je pense que beaucoup d'entre nous, et votre présence le prouve, nous sommes prêts à être dans cette dynamique de changement qui est, encore une fois, indispensable en 2018 pour notre pays. Merci à vous, bon congrès.
Bonjour, Pierre-Michel Lorca, donc au revoir, monsieur le directeur. Je suis psychiatre et donc c'est un grand honneur que me fait l'ADES de me donner la possibilité de présider cette séance. Alors, une fois de plus, hein, il a été souligné l'importance d'un congrès international. Je mettrai en avant aussi le fait que ce congrès n'est non seulement international, mais surtout aussi pluridisciplinaire. pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, et je pense que c'est extrêmement important. En fait, on est un pays dans lequel les rapports sociaux sont dominés par la notion de rapport de force. Et en fait, malgré tout, les relations entre les soignants et les personnels administratifs au sein des établissements de santé sont souvent dominées par des sortes de logiques de confrontation qui, à mon avis, sont sans aucun intérêt, car nous avons exactement les mêmes objectifs et des champs d'intervention différents, c'est tout. Et je pense qu'il est important de le garder en tête. Donc je suis ravi d'être là pour pouvoir simplement présider la séance, gérer le temps et donner mon point de vue, si tant est que j'ai un point de vue sur les éléments évoqués. On pourrait penser, après ce qu'a dit le directeur de l'agence, que en fait tout est réglé. On a une idée précise du diagnostic, on a une idée précise des enjeux, on a une idée précise des moyens, et donc bonne journée. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit aussi simple que ça, car je pense que de nombreux éléments doivent être pris en compte. Et j'ai aussi un bémol à apporter sur la notion d'internationalisation, pardon, car je pense qu'il est très important de se confronter à d'autres cultures, à d'autres modalités de pensée sur le soin, sur la manière dont on envisage la psychiatrie, la santé mentale, sur son organisation. Pour autant, les analogies ne sont pas forcément des choses qui sont fonctionnelles, et il faut savoir mettre en perspective aussi ces rapprochements qu'on peut faire, car sinon on a l'impression que la solution vient toujours d'ailleurs, on ne se l'approprie pas et ça ne fonctionne pas. En tout cas, je suis vraiment tout à fait ravi d'être ici et de pouvoir essayer de participer à ces débats, et je remercie une fois de plus l'ADESM de cette invitation. Alors aujourd'hui, les séances qui vont se succéder, la séance globale, je devrais faire à la fin une synthèse, il sera bien tard et j'essaierai d'être le plus court possible, mais en tout cas va essayer d'envisager justement, alors l'intitulé c'est la psychiatrie confrontée à un monde en mutation. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans la présentation, dans le programme, je viens d'écrire avec Marion Le Boyer un ouvrage qui s'appelle Psychiatrie, l'état d'urgence, et en fait cet ouvrage avait fait le constat quand même d'une situation assez difficile de la psychiatrie dans notre pays, en dépit de ses multiples qualités, de ses multiples atouts. Et cette situation de difficulté, elle est vécue par tous les acteurs, et d'une façon extrêmement désespérante, effectivement, comme l'a dit le directeur, mais de manière beaucoup plus profonde probablement qu'on peut l'imaginer. Mais je suis ravi que l'intitulé de cette session soit « La psychiatrie confrontée à un monde en mutation », parce que quand on parle d'état d'urgence, l'idée c'était quand même un petit peu d'attirer l'attention sur un sujet dont je pense que les politiques ne se saisissent pas assez. Mais en fait, l'élément principal, et c'est une manière tout à fait positive de présenter les choses, notre monde est en mutation, et en fait, nous sommes dans ce monde-là, et nous sommes confrontés à ces mutations-là, et nous devons les appréhender. Comme je l'ai dit, nous avons les mêmes objectifs, nous avons des champs d'intervention différents, qui sont contigus, parfois recouvrants, et en fait, il est important qu'on puisse réfléchir à cela. Cet après-midi, donc, va être consacré à cette manière d'envisager les mutations du monde et essayer d'appréhender, d'avoir des points de vue qui nous aideront à réfléchir sur cette mutation et sur les conséquences que ça peut avoir sur la pratique de la psychiatrie dans tous ses aspects, mais également les conséquences de ces mutations sur l'apparition de troubles chez les sujets, chez certaines populations. Et je pense que c'est important d'avoir en tête les différentes perspectives, les différents aspects. Donc on va avoir une première séance, qui est une session pardon, de 15h30 à 17h, si on arrive à tenir le temps. Et je vais appeler successivement les différents orateurs. Simplement, ce que je vous propose, les thématiques sont dans la même, il y a une thématique commune, mais je pense que les interventions sont assez distinctes. Donc en fait, si je proposerai qu'à la fin de chaque intervention, on ait la possibilité de poser une ou deux questions ou une remarque, s'il y en a. S'il n'y en a pas, les remarques peuvent venir naître plus tard de la réflexion ultérieure, plutôt qu'une discussion générale qui sera, à mon avis, pas forcément très appropriée au format. Donc je vais commencer par appeler Madame Anne-Marie Brocaz, qui a déjà été citée par le directeur de l'agence, présidente du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Ce Haut Conseil a été noté avec son acronyme, et donc qui va nous parler donc de la nécessaire stratégie de transformation du système de santé. Tous les mots comptent et j'en suis ravi. Donc je vous appelle peut-être, où voulez-vous parler ? C'est votre choix. Allez-y, je vous en prie, je vous... Oui, oui, bien sûr, regardez, vous avez le... Et moi, je vais me mettre là pour vous voir, ça sera mieux.